Chapitre 3. Le filament scintillant. 1.
Tu les observais ?
Fit une voix douce et enjouée. Puis la voix se lança dans une comptine sans queue ni tête que Roland se serait rappelée sans peine depuis l'enfance.
« Petite fleurette, mouche ton nez, ma fillette. Il est joli, il est beau.
Oh oui, vraiment qu'il est beau. Mon doux chéri, mon babeau.
As-tu aimé ce que tu as vu avant de t'endormir? Les regardais-tu changer avec le reste de ce monde en faillite?
Il devait s'être écoulé une dizaine d'heures depuis que Nigel, le robot domestique, avait accompli son dernier devoir. Mordred, qui en fait s'était profondément endormi, tourna la tête en direction de la voix de l'inconnu sans aucune surprise ni vertige dû au sommeil. Il vit un homme en jean et blouson à capuche debout sur les dalles grises du centre de contrôle. Son guna, rien qu'un sac de marin usé, reposait à ses pieds. Il avait les joues rosies, un beau visage, des yeux étincelants. Il tenait un pistolet automatique et en regardant dans l'œil noir de sa gueule, Mordred Deschênes comprit pour la deuxième fois que même les dieux pouvaient mourir, une fois leur essence divine diluée dans le sang humain. Mais il n'avait pas peur, pas de celui-là. Il posa effectivement de nouveau le regard sur le moniteur diffusant les images de l'appartement de Nigel, ce qui lui confirma que le nouveau venu disait vrai. Il était vide. L'inconnu souriant, qui semblait avoir surgi du sol même, leva la main qui ne tenait pas le pistolet et écarta un pan de capuche qui lui masquait le visage. Mordred aperçut un éclat métallique. Une sorte de treillis de fer tapissait l'intérieur de la capuche.
« Je l'appelle mon bonnet de pensée, » dit l'étranger. « Je ne peux entendre tes pensées. C'est un inconvénient certain. Mais toi, tu ne peux pénétrer mon esprit. Ce qui est un avantage certain, tu en conviendras. Ce qui est un avantage certain, tu en conviendras. »
Son blouson était orné de deux écussons. L'un de l'US Army avec un oiseau aigle, pas un oiseau ouh ouh. L'autre était un nom, Randall Flagg. Mordred découvrit, sans surprise là encore, qu'il savait lire sans difficulté.
Parce que si tu ressembles un tant soit peu à ton père rouge, j'entends, alors tes pouvoirs mentaux pourraient bien dépasser la simple communication. »
L'homme dans sa parka eut un petit rire sot. Il ne voulait pas que Mordred sente sa peur. Peut-être avait-il réussi à se convaincre lui-même qu'il n'avait pas peur, qu'il était venu jusqu'ici de son plein gré. Peut-être que c'était le cas. Mordred s'en moquait de toute manière. Tout comme il se moquait des projets de l'homme qui bouillonnait dans sa tête comme de la soupe chaude. Cet homme, croyait-il réellement que son bonnet de pensée avait aveuglé ses facultés? Mordred scruta de plus près, creusa plus profond et constata que la réponse était oui, très commode.
Quoi qu'il en soit, un peu de protection ne peut pas faire de mal.
La prudence est toujours la voie la plus sûre.
Comment crois-tu que j'ai survécu à la chute de Pharson et à la mort de Gilead? Je ne voudrais pas que tu entres dans ma tête et que tu me pousses du dernier étage, vois-tu? Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? Tu as besoin de quelqu'un, de moi, maintenant que ton tas de boulons s'est tu et que tu n'es qu'un babot qui ne peut pas remettre sa langue tout seul autour de son cul dégueulasse.
L'étranger, qui n'était pas du tout un étranger, éclata de rire. Mordred restait assis sur sa chaise à le regarder. Sur la joue de l'enfant s'attardait une zébrure rose, car il avait dormi la joue appuyée contre sa petite main. Le nouveau venu reprit.
« Je crois que nous pouvons très bien communiquer si je parle et que tu réponds par oui ou par non, ou que tu secoues la tête pour dire non. tape sur ta chaise si tu ne comprends pas. Rien de plus simple, tu es d'accord ? »
Mordred hocha la tête. Le nouveau venu trouvait l'éclat bleu et imperturbable de ses yeux un tantinet dérangeant, très dérangeant pour tout dire, mais essaya de ne pas le montrer. Il se demanda encore s'il avait bien fait de venir ici, mais il avait suivi la piste de Mia depuis qu'elle s'était fait engrosser. Et pour quelle raison sinon en arriver là? C'était là un jeu dangereux, certes, mais à présent il n'y avait plus que deux créatures capables de déverrouiller la porte au pied de la tour, avant que la tour ne tombe. Ce qui arriverait. Et bientôt, parce que l'écrivain n'avait plus que quelques jours à vivre dans ce monde, et que les derniers livres de la tour, trois derniers livres, restaient à écrire. Dans le dernier, effectivement, écrit dans ce monde clé, le cathète de Roland avait banni Cy Randy Flagg d'un palais de rêve sur une autoroute. Un palais qui avait rappelé à Eddie, Susanna et Jack le château du grand et terrible Oz. Oz, le roi vert, si cela vous sied. En fait, ils avaient bien failli tuer ce bon vieux guignol de Walter Odim, et d'aucuns auraient presque pu dire que tout était bien qui finissait bien. Mais au-delà de la page 863 de « Magie et cristal », Stephen King n'avait plus écrit un mot sur Roland et la tour sombre. Et pour Walter, tout était effectivement bien qui finissait bien. Les habitants de Calabrine Sturgis, les enfants crânés, Mia et le bébé de Mia. Toutes ces choses dormaient encore à l'état inachevé dans le subconscient de l'écrivain. Des créatures sans vie emprisonnées derrière une porte dérobée. Et à présent, Walter jugeait qu'il était trop tard pour les libérer. Même si King avait été diablement rapide dans sa carrière, un auteur réellement talentueux qui avait viré à l'artiste approximatif et minable, quoique riche, un Algernon Swinburne à court de vers, si cela vous sied. Il ne pouvait aller au-delà des 100 premières pages de ce récit dans le temps qui lui restait encore, pas même en écrivant nuit et jour. Trop tard. Il y avait un choix à faire, comme Walter le savait très bien. Il s'était trouvé au casse-roi russe, et il l'avait vu dans la boule de cristal que la vieille chose rouge possédait encore, même si aujourd'hui elle devait croupir dans un coin oublié du château. À l'été 1997, King avait clairement imaginé l'histoire des loups, des jumeaux et des plats volants appelés Oriza. Mais tout ça lui avait paru un travail trop considérable. Il avait préféré se lancer dans un livre mêlant les histoires en une trame aléatoire, un livre intitulé « Cœur perdu en Atlantide ». Et même maintenant, dans sa maison du chemin du dos de la tortue, où il n'avait jamais aperçu un seul entrant. L'auteur dilapidait le peu de temps qui lui restait en écrivant sur la paix et l'amour au Vietnam. Il est vrai que l'un des personnages de ce qui serait le dernier livre de King aurait son rôle à jouer dans l'histoire de la tour sombre telle qu'elle aurait dû être. Mais ce bonhomme, un vieux type aux multiples talents, n'aurait jamais l'occasion de prononcer les répliques vraiment importantes. Charmant. Dans le seul monde qui comptait vraiment. Le monde véritable, où on ne revenait jamais en arrière et où il n'y avait pas de deuxième chance. Je vous dis vrai. On était le 12 juin 1999. Et le temps imparti à l'auteur s'était réduit à une peau de chagrin de moins de 200 heures. Walter Odim savait qu'il ne disposait pas d'autant pour atteindre la tour sombre, parce que le temps, comme le métabolisme de certaines araignées, était plus rapide et plus brûlant de ce côté-ci. Disons 5 jours, 5 et demi tout au plus. C'était ce dont il disposait pour atteindre la tour sombre, avec dans son guna le pied marqué et amputé de Mordred des chaînes, pour ouvrir la porte tout en bas et gravir ses escaliers remplis de murmures, pour passer devant la cellule du roi rouge emprisonné. S'il pouvait trouver un véhicule ou la bonne porte, était-il trop tard pour devenir le dieu de tous ? Peut-être pas.
Quoi qu'il en soit, quel mal y avait-il à essayer? Walter Odim avait erré longtemps et sous 100 identités différentes. Mais la tour avait toujours été son but ultime. Tout comme Roland, il voulait monter au sommet et voir ce qui y vivait, s'il y avait quelque chose. Il n'appartenait à aucune coterie, à aucun culte, à aucune obédience et à aucune des factions qui s'étaient fait jour dans ces années de confusion, depuis que la tour s'était mise à vaciller, bien qu'il en ait porté les sigles, chaque fois qu'il avait pu en tirer avantage. Ce n'était que récemment qu'il était entré au service du roi cramoisi, et à celui de John Farson, l'homme de bien qui avait précipité la chute de Gilead, ce dernier bastion de la civilisation, dans une vague de sang et de tuerie. À cette époque, Walter avait largement contribué à ces massacres, vivant une longue vie qui n'était pas tout à fait mortelle. Il avait été le témoin de la fin de ce qu'il avait alors pris pour le dernier cathète de Roland, à Jericho Hill. Témoin? Il péchait là par excès de modestie, par tous les diables et tous les poissons. Sous le nom de Rudin Filaro, il avait combattu. Le visage peinturluré de bleu, il avait hurlé et mené l'assaut avec le reste de ses barbares puants et il avait tué de ses mains Cuthbert Allgood en personne d'une flèche dans l'œil. Pourtant, pendant toutes ces années, il n'avait pas quitté la tour des yeux. C'était peut-être la raison pour laquelle ce maudit pistolero, tandis que le soleil se couchait sur cette journée de travail, Roland de Gilead avait été le dernier d'entre eux, avait réussi à s'échapper, à demi enfoui dans un tombereau rempli de cadavres, pour ramper dessous les corps massacrés au coucher du soleil, juste avant que l'on enflamme le bûcher. Il avait vu Roland des années plus tôt à Méris, et là encore il avait raté de peu sa proie, même s'il rejetait grandement la faute sur Eldred Jonas, avec sa voix tremblante et ses longs cheveux gris, et Jonas avait payé pour ça. Le roi lui avait dit alors qu'il n'en avait pas terminé avec Roland, que le pistolero serait à l'origine de leur fin et qu'il précipiterait la chute même de ce qu'il essayait de sauver. Walter n'en avait pas cru un mot, jusqu'à ce jour, dans le désert Moen, où il avait découvert que certains pistoleros étaient à ses trousses, un pistolero vieilli par les ans écoulés. Et ce n'est qu'avec la réapparition de Mia, qui venait accomplir une ancienne et solennelle prophétie en donnant naissance au fils du roi cramoisi, qu'il ne l'avait réellement cru. Certes, la vieille chose rouge ne lui était plus d'aucune utilité, mais même enfermé dans sa prison et dans sa folie, cet être, cette chose, demeurait dangereux. Néanmoins, jusqu'à la rencontre avec Roland, qui l'avait enfin achevé, qui lui avait offert un destin au-delà de ses espérances, peut-être, Walter Odim n'était rien de plus qu'un vagabond rescapé des temps anciens, qu'un mercenaire animé de la vague ambition de pénétrer dans la tour avant qu'elle ne soit mise à terre. N'était-ce pas ce qui, au départ, l'avait amené au roi cramoisi? Si. Et ce n'était pas sa faute si ce grand dieu araignée avait perdu l'esprit. Peu importait. Voilà qu'il avait trouvé son fils, marqué à l'identique au talon. Walter voyait la marque en cet instant même. Et tout s'équilibrait. Bien sûr, il lui faudrait faire preuve de prudence. Cette chose, assise sur sa chaise, avait beau paraître sans défense, avait beau même se croire sans défense. Il ne fallait pas la sous-estimer sous le simple prétexte qu'elle avait l'apparence d'un bébé. Walter glissa le pistolet dans sa poche. Pour l'instant, seulement pour l'instant. Et tendit ses mains vides, tournées vers le haut. Puis il serra un poing et le porta à son front. Lentement, sans quitter une seconde Mordred des yeux, par crainte qu'il se transforme à nouveau, Walter avait déjà assisté à la métamorphose et avait vu ce qu'il était advenu de la mère de cette petite bête.
Le nouveau venu mit un genou en terre.
Heil, Mordred des chênes, fils de Roland de Gilead qui fut, et du roi cramoisi dont le nom était jadis prononcé du monde ultime jusqu'à leur monde. Heil, toi fils de deux pères, tous deux descendants d'Arthur l'aîné, premier roi à avoir régné après que le prime se fut retiré, et gardien de la tour sombre. Tout d'abord, il ne se passa rien. Dans le centre de contrôle, seul pesait le silence et les relents entêtants des circuits grillés de Nigel. Puis le bébé tendit ses poings potelés, les ouvrit et leva les mains.
« Lève-toi, cerf, et viens à moi. »